parce que nous avons pris tant de plaisir à faire résonner au printemps dernier les plus belles pages de la littérature française. Ensemble, nous allons faire revivre les grands textes de notre patrimoine littéraire, philosophique ou historique, dans la voix de grands comédiens. Puis les analyser de manière experte avec le concours du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, l'adieu. Après avoir bien écouté, dans une demi-heure, à vous de jouer. Cette lecture sera suivie de la grande dictée de Rachid Santaki, avec notre invité, le poète Bruno Doucet. Sa maison d'édition fête ses 10 ans, entièrement dédiée à la poésie. Il publie Margaret Atwood, Yvon Lemaine ou encore Jeanne Benhamer. Enfin, l'anagramme d'Étienne Klein, le jeu de mots de notre malicieux physicien.
France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert.
Gros succès à sa sortie, en 1678, la princesse de Clèves surprend par son originalité, par son réalisme et la finesse de ses analyses psychologiques. Les lecteurs sont témoins de la progression du sentiment amoureux entre le duc de Nemours et la princesse de Clèves. Un amour partagé, mais un amour impossible. La princesse, déjà mariée à monsieur de Clèves, qu'elle estime mais qu'elle n'aime pas, lutte contre la passion qui s'empare d'elle et refuse de se livrer à une aventure que la morale condamne, mais que la galanterie de la cour d'Henri II ne désapprouverait pas. La princesse fait le choix de se montrer fidèle à son époux et lui avoue son inclination pour un homme sans donner son nom. Fallait-il lui faire cette confidence ? Aussi exceptionnelle que l'est le personnage de la princesse, cette sincérité étonne les lecteurs et suscite un vif débat dans la revue littéraire du Mercure Galant, comme dans les salons à la mode, renouvelant ainsi la tradition de la question d'amour. Autre question d'amour, qui sera notre question du jour, elle se pose sur la fin du roman. Monsieur de Nemours fait venir la princesse à sa rencontre par surprise. Madame de Clèves est désormais libre, son mari est mort peu de temps auparavant, tué par sa jalousie. Plus de devoirs, plus de vertus qui s'opposassent à ses sentiments, tous les obstacles étaient désormais levés, décrète la narratrice. Pour la première fois, la princesse et le duc peuvent se parler librement de leur amour. Pour la première fois surtout, le bonheur est à leur portée. Et pourtant, dans l'extrait que vous allez entendre, pas de happy end. Madame de Lafayette refuse à ses deux héros la fin heureuse de ceux de L'Astrée, roman pastoral d'Honoré d'Urfé, au succès exceptionnel et dont elle fut une lectrice passionnée. Dans un adieu glaçant, la princesse va à nouveau faire le choix de se refuser au duc et donc de renoncer à lui. Pourquoi ? Comment comprendre le sens de son refus ? Écoutons donc la dernière conversation entre la princesse de Clèves et le duc de Nemours pour entrer dans ce débat ouvert par bien des lecteurs avant nous. Vous l'avez peut-être vu sur les planches dans Retour à Reims de Didier Héribon, mise en scène par Thomas Ostermeyer. L'actrice de Trois couleurs rouges, Irène Jacob, lit pour vous aujourd'hui un extrait de la princesse de Clèves.
L'on ne peut exprimer ce que sentirent Monsieur de Nemours et Madame de Clèves de se trouver seuls et en état de se parler pour la première fois. Ils demeurèrent quelque temps sans rien dire. Enfin, Monsieur de Nemours, rompant le silence, « Pardonnerez-vous à Monsieur de Chartres, Madame, lui dit-il, de m'avoir donné l'occasion de vous voir et de vous entretenir que vous m'avez si cruellement ôté. Je ne lui dois pas pardonner, répondit-elle, d'avoir oublié l'état où je suis. Et à quoi il expose ma réputation ? » En prononçant ces paroles, elle voulut s'en aller, et Monsieur de Nemours la retenant. « Ne craignez rien, madame, répliqua-t-il. Personne ne sait que je suis ici, et aucun hasard n'est à craindre. Écoutez-moi, madame, écoutez-moi. Si ce n'est par bonté, que ce soit du moins pour l'amour de vous-même, et pour vous délivrer des extravagances où m'emporterait infailliblement une passion dont je ne suis plus le maître. » Madame de Clèves céda pour la première fois au penchant qu'elle avait pour Monsieur de Nemours, et le regardant avec des yeux pleins de douceur et de charme. « Mais qu'espérez-vous, lui dit-elle, de la complaisance que vous me demandez ? Vous vous repentirez peut-être de l'avoir obtenue, et je me repentirai infailliblement de vous l'avoir accordée. Vous méritez une destinée plus heureuse que celle que vous avez eue jusqu'ici et que celle que vous pouvez trouver à l'avenir, à moins que vous ne la cherchiez ailleurs. « Moi, madame, lui dit-il, cherchez du bonheur ailleurs. Et y en a-t-il d'autre que d'être aimé de vous ? Quoique je ne vous en ai jamais parlé, je ne saurais croire, madame, que vous ignoriez ma passion et que vous ne la connaissiez pour la plus véritable et la plus violente qui sera jamais. À quelle épreuve a-t-elle été par des choses qui vous sont inconnues ? À quelle épreuve l'avez-vous mise par vos rigueurs ? Puisque vous voulez que je vous parle et que je m'y résous, répondit madame de Clèves en s'asseyant, je le ferai avec une sincérité que vous trouverez malaisément dans les personnes de mon sexe. Je ne vous dirai point que je n'ai pas vu l'attachement que vous avez eu pour moi. Peut-être ne me croiriez-vous pas quand je vous le dirai. Je vous avoue donc, non seulement que je l'ai vu, mais que je l'ai vu tel que vous pouvez souhaiter qu'il m'ait paru. Oh, « Si vous l'avez vu, madame, interrompit-il, est-il possible que vous n'en ayez point été touchée ? Et oserais-je vous demander s'il n'avait aucune impression dans votre cœur ? Vous avez dû en juger par ma conduite, lui répliqua-t-elle, mais je voudrais bien savoir ce que vous en avez pensé. Il faudrait que je fusse dans un état plus heureux pour vous l'oser dire, répondit-il, et ma destinée a trop peu de rapport à ce que je vous dirai. Tout ce que je puis vous apprendre, madame, c'est que j'ai souhaité ardemment que vous n'eussiez pas avoué à Monsieur de Clèves ce que vous me cachiez, et que vous lui eussiez caché ce que vous me laissiez voir. Comment avez-vous pu découvrir, reprit-elle en rougissant, que j'ai avoué quelque chose à Monsieur de Clèves ? Je l'ai su par vous-même, madame, répondit-il. Mais pour me pardonner la hardiesse que j'ai eue de vous écouter, souvenez-vous si j'ai abusé de ce que j'ai entendu, si mes espérances en ont augmenté, ici j'ai eu plus de hardiesse à vous parler. Il commença à lui conter comme il avait entendu sa conversation avec Monsieur de Clèves, mais elle l'interrompit avant qu'il eût achevé. « Ne m'en dites pas davantage, lui dit-elle. Je vois présentement par où vous avez été si bien instruit. Vous ne me le parûtes déjà que trop chez Madame la Dauphine, qui avait su cette aventure par ceux à qui vous l'aviez confiée. » Monsieur de Nemours lui apprit alors de quelle sorte la chose était arrivée. « Ne vous excusez point, reprit-elle. Il y a longtemps que je vous ai pardonné sans que vous m'ayez dit la raison. Mais puisque vous avez appris par moi-même ce que j'avais eu dessein de vous cacher toute ma vie, je vous avoue que vous m'avez inspiré des sentiments qui m'étaient inconnus, devant que de vous avoir vu, et dont j'avais même si peu d'idées qu'ils me donnèrent d'abord une surprise, qui augmentait encore le trouble qui les suit toujours. Je vous fais cet aveu avec moins de honte, parce que je le fais dans un temps où je le puis faire sans crime, et que vous avez vu que ma conduite n'a pas été réglée par mes sentiments. « Croyez-vous, madame, lui dit Monsieur de Nemours en se jetant à ses genoux, que je n'expire pas vos pieds de joie et de transport. Je ne vous apprends, lui répondit-elle en souriant, que ce que vous ne savez déjà que trop. Ah, madame, répliqua-t-il, quelle différence de le savoir par un effet du hasard, ou de l'apprendre par vous-même, et de voir que vous voulez bien que je le sache. Il est vrai, lui dit-elle, que je veux bien que vous le sachiez, et que je trouve de la douceur à vous le dire. Je ne sais même si je ne vous le dis point plus pour l'amour de moi que pour l'amour de vous. Car enfin cet aveu n'aura point de suite, et je suivrai les règles austères que mon devoir m'impose.
« Vous n'y songez pas, madame, répondit Monsieur de Nemours. Il n'y a plus de devoir qui vous lie. Vous êtes en liberté. Et si j'osais, je vous dirais même qu'il dépend de vous de faire en sorte que votre devoir vous oblige un jour à conserver les sentiments que vous avez pour moi. Mon devoir, répliqua-t-elle, me défend de penser jamais à personne, et moins à vous qu'à qui que ce soit au monde, par des raisons qui vous sont inconnues.
Elles ne me le sont peut-être pas, madame, reprit-il, mais ce ne sont point de véritables raisons. Je crois savoir que Monsieur de Clèves m'a cru plus heureux que je n'étais, et qu'il s'est imaginé que vous aviez approuvé des extravagances que la passion m'a fait entreprendre sans votre aveu.
Ne parlons pas de cette aventure, lui dit-elle. Je n'en saurais soutenir la pensée. Elle me fait honte. Elle m'est aussi trop douloureuse par les suites qu'elle a eues. Il n'est que trop véritable que vous êtes la cause de la mort de Monsieur de Clèves. Les soupçons que lui a donné votre conduite inconsidérée lui ont coûté la vie, comme si vous la lui aviez ôtée de vos propres mains. Voyez ce que je devrais faire si vous en étiez venus ensemble à ces extrémités. et que le même malheur en fût arrivé. Je sais bien que ce n'est pas la même chose à l'égard du monde, mais au mien, il n'y a aucune différence, puisque je sais que c'est par vous qu'il est mort, et que c'est à cause de moi.
« Ah, madame, lui dit Monsieur de Nemours, quel fantôme de devoir opposez-vous à mon bonheur. Quoi, madame, une pensée vaine et sans fondement vous empêchera de rendre heureux un homme que vous ne haïssez pas ? Quoi, j'aurais pu concevoir l'espérance de passer ma vie avec vous. Ma destinée m'aurait conduit à aimer la plus estimable personne du monde. J'aurais vu en elle tout ce qui peut faire une adorable maîtresse. Elle ne m'aurait pas haï, et je n'aurais trouvé dans sa conduite que tout ce qui peut être à désirer dans une femme. Car enfin, madame, vous êtes peut-être la seule personne en qui ces deux choses se soient jamais trouvées au degré qu'elles sont en vous. Tous ceux qui épousent des maîtresses dont ils sont aimés tremblent en les épousant et regardent avec crainte par rapport aux autres la conduite qu'elles ont eue avec eux. Mais en vous, madame, rien n'est à craindre et on ne trouve que des sujets d'admiration. N'aurais-je envisagé, dis-je, une si grande félicité que pour vous y voir apporter vous-même des obstacles ? Ah, madame, vous oubliez que vous m'avez distinguée du reste des hommes. Ou plutôt, vous ne m'en avez jamais distinguée. Vous vous êtes trompée et je me suis flattée.
Vous ne vous êtes point flattée, lui répondit-elle. Les raisons de mon devoir ne me paraîtraient peut-être pas si fortes sans cette distinction dont vous vous doutez, et c'est elle qui me fait envisager des malheurs à m'attacher à vous.
Je n'ai rien à répondre, madame, reprit-il, quand vous me faites voir que vous craignez des malheurs. Mais je vous avoue qu'après tout ce que vous avez bien voulu me dire, je ne m'attendais pas à trouver une si cruelle raison.
Elle est si peu offensante pour vous, reprit madame de Clèves, que j'ai même beaucoup de peine à vous l'apprendre.
Hélas, madame, répliqua-t-il, que pouvez-vous craindre qui me flatte trop après ce que vous venez de me dire ?
Je veux vous parler encore avec la même sincérité que j'ai déjà commencé, reprit-elle. Et je vais passer par-dessus toute la retenue et toutes les délicatesses que je devrais avoir dans une première conversation. Mais je vous conjure de m'écouter sans m'interrompre. Je crois devoir à votre attachement la faible récompense de ne vous cacher aucun de mes sentiments et de vous les laisser voir tels qu'ils sont. Ce sera apparemment la seule fois de ma vie que je me donnerai la liberté de vous les faire paraître. Néanmoins, je ne saurais vous avouer sans honte que la certitude de n'être plus aimée de vous comme je le suis me paraît un si horrible malheur que, quand je n'aurai point des raisons de devoir insurmontables, je doute si je pourrais me résoudre à m'exposer à ce malheur. Je sais que vous êtes libre, que je le suis, et que les choses sont d'une sorte que le public n'aurait peut-être pas sujet de vous blâmer, ni moi non plus, quand nous nous engagerions ensemble pour jamais. Mais les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels ? Dois-je espérer un miracle en ma faveur ? Et puis-je me mettre en état de voir certainement finir cette passion dont je ferai toute ma félicité ? Monsieur de Clèves était peut-être l'unique homme du monde capable de conserver de l'amour dans le mariage. Ma destinée n'a pas voulu que j'aie pu profiter de ce bonheur. Peut-être aussi que sa passion n'avait subsisté que parce qu'il n'en aurait pas trouvé en moi. Mais je n'aurais pas le même moyen de conserver la vôtre. Je crois même que les obstacles ont fait votre constance. Vous en avez assez trouvé pour vous animer à vaincre, et mes actions involontaires, ou les choses que le hasard vous a apprises, vous ont donné assez d'espérance pour ne pas vous rebuter. Ah, madame, reprit Monsieur de Nemours, je ne saurais garder le silence que vous m'imposez. Vous me faites trop d'injustice, et vous me faites trop voir combien vous êtes éloigné d'être prévenu en ma faveur. J'avoue, répondit-elle, que les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. Rien ne peut m'empêcher de connaître que vous êtes née avec toutes les dispositions pour la galanterie et toutes les qualités qui sont propres à y donner des succès heureux. Vous avez déjà eu plusieurs passions ? Vous en auriez encore ? Je ne ferai plus votre bonheur. Je vous verrai pour une autre comme vous auriez été pour moi. J'en aurai une douleur mortelle et je ne serai pas même assurée de n'avoir point le malheur de la jalousie. Je vous en ai trop dit pour vous cacher que vous me l'avez fait connaître et que je souffris de si cruelles peines le soir que la reine me donna cette lettre de madame de Thémines que l'on disait qui s'adressait à vous, qu'il m'en est demeuré une idée qui me fait croire que c'est le plus grand de tous les maux. Par vanité ou par goût, toutes les femmes souhaitent de vous attacher. Il y en a peu à qui vous ne plaisiez. Mon expérience me ferait croire qu'il n'y en a point à qui vous ne puissiez plaire. Je vous croirais toujours amoureux et aimé, et je ne me tromperai pas souvent. Dans cet état, néanmoins, je n'aurai d'autre parti à prendre que celui de la souffrance. Je ne sais même si j'oserais me plaindre. On fait des reproches à un amant, mais en fait-on à un mari quand on n'a qu'à lui reprocher que de n'avoir plus d'amour? Quand je pourrais m'accoutumer à cette sorte de malheur, pourrais-je m'accoutumer à celui de croire voir toujours M. de Clèves vous accuser de sa mort, me reprocher de vous avoir aimé, de vous avoir épousé, et me faire sentir la différence de son attachement au vôtre? Il est impossible, continua-t-elle, de passer par-dessus des raisons si fortes. Il faut que je demeure dans l'état où je suis, et dans les résolutions que j'ai prises, de n'en sortir jamais.
« Et croyez-vous le pouvoir, madame ?» s'écria M. de Nemours. « Pensez-vous que vos résolutions tiennent contre un homme qui vous adore et qui est assez heureux pour vous plaire ? Il est plus difficile que vous ne pensez, madame, de résister à ce qui nous plaît et à ceux qui nous aiment. Vous l'avez fait par une vertu austère qui n'a presque point d'exemple, mais cette vertu ne s'oppose plus à vos sentiments et j'espère que vous les suivrez malgré vous. »
« Je sais bien qu'il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends, » répliqua madame de Clèves. « Je me défie de mes forces au milieu de mes raisons. Ce que je crois devoir à la mémoire de M. de Clèves serait faible s'il n'était pas soutenu par l'intérêt de mon repos. Et les raisons de mon repos ont besoin d'être soutenues par celles de mon devoir. Mais, quoique je me défie de moi-même, je crois que je ne vaincrai jamais mes scrupules, et je n'espère pas aussi de surmonter l'inclinaison que j'ai pour vous. Elle me rendra malheureuse, et je me priverai de votre vue quelque violence qu'il m'en coûte. Je vous en conjure, par tout le pouvoir que j'ai sur vous, de ne chercher aucune occasion de me voir. Je suis dans un état qui me fait des crimes de tout ce qui pourrait être permis dans un autre temps, et la seule bienséance interdit tout commerce entre nous. »
Monsieur de Nemours se jeta à ses pieds et s'abandonna à tous les divers mouvements dont il était agité. Il lui fit voir, et par ses paroles et par ses pleurs, la plus vive et la plus tendre passion dont un cœur ait jamais été touché. Celui de madame de Clèves n'était pas insensible, et regardant ce prince avec des yeux un peu grossis par les larmes, « Pourquoi faut-il, s'écria-t-elle, que je vous puisse accuser de la mort de monsieur de Clèves? Que n'ai-je commencé à vous connaître depuis que je suis libre? Ou pourquoi ne vous ai-je pas connu devant que d'être engagée? Pourquoi la destinée nous sépare-t-elle par un obstacle si invincible ?»«
Il n'y a point d'obstacle, madame, » répondit monsieur de Nemours. « Vous seule vous opposez à mon bonheur. Vous seule vous imposez une loi que la vertu et la raison ne sauraient vous imposer. »
« Il est vrai, » répliqua-t-elle, « que je sacrifie beaucoup à un devoir qui ne subsiste que dans mon imagination. Attendez ce que le temps pourra faire. Monsieur de Clèves ne fait encore que d'expirer, et cet objet funeste est trop proche pour me laisser des vues claires et distinctes. Ayez cependant le plaisir de vous être fait aimer d'une personne qui n'aurait rien aimé, si elle ne vous avait jamais vu. Croyez que les sentiments que j'ai pour vous vous seront éternels, et qu'ils subsisteront également quoi que je fasse. Adieu. Voici une conversation qui me fait honte. Rendez-en compte à monsieur le vidame. J'y consens et je vous en prie. »
C'était Irène Jacob, elle vous faisait la lecture de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette pour En français dans le texte.
France Culture, En français dans le texte, Olivia Gesbert.
Et maintenant, l'analyse des professeurs de l'éducation nationale. Clôturant presque le roman, le passage que vous venez d'entendre a pourtant tout d'un commencement. Pour la première fois, nous dit la narratrice, Monsieur de Nemours et Madame de Clèves se trouvent seuls et en état de se parler. Madame de Clèves porte encore le deuil de son époux. Sous un prétexte fallacieux, le vidame de Chartres, grand ami de Nemours, a invité Madame de Clèves, sa parente, à se rendre chez lui. C'est alors qu'elle voit surgir Nemours par un escalier dérobé et ne peut lui échapper. Le vidame se retire. Dans l'extrait que vous venez d'entendre, la princesse qualifie l'échange de première conversation. Pourtant, ils se sont déjà parlé, même seul à seul. Alors en quoi cette conversation est-elle si extraordinaire qu'elle efface toutes les autres à ses yeux ? C'est que pour la première fois, Monsieur de Nemours et Madame de Clèves peuvent se parler avec une absolue sincérité. Chacun sait déjà ce que l'autre ne dit pas ouvertement depuis le début du roman. Quoique je ne vous ai jamais parlé, je ne saurais croire, Madame, que vous ignoriez ma passion, lui dit-il. Et elle, de lui répondre, je ne vous dirai point que je n'ai pas vu l'attachement que vous aviez eu pour moi. Les négations, redoublées, soulignent à l'attention du lecteur par quel détour l'expression de leur amour a dû, jusqu'ici, passer. Dans cet extrait, elle lui fait un second aveu, celui de la manière dont l'amour s'est emparé d'elle, à la vue du duc. La sincérité de cette conversation élève les deux personnages bien au-delà des jeux mondains et des intrigues galantes de la cour. Étonnante, cette conversation l'est également par sa dimension théâtrale. L'entrée de Monsieur de Nemours dans le décor du grand cabinet marque le début de la plus longue scène du roman, qui s'achève par un adieu d'héroïne tragique. Le temps de la lecture rejoint le temps de l'action. La narratrice s'efface devant les répliques des personnages. Aidé des didascalies qui organisent la scène, le lecteur vit, aux côtés de Nemours, les espoirs et les désespoirs de la passion. Au silence qui s'impose au début de l'extrait et que Nemours va rompre, succède alors le dialogue. Madame de Clèves veut s'en aller, Nemours la retient. Alors la princesse s'assoit, elle ne se relèvera que pour sortir, juste après l'extrait lu. Entre ces deux moments, Nemours, écoutant la princesse lui dire qu'elle l'aime, connaît une joie sans mesure, que Stendhal compara dans De l'amour à la victoire de Napoléon à Marengo. À ce bonheur intense succède immédiatement une terrible souffrance, car enfin, cet aveu n'aura point de suite, dit la princesse de Clèves. Mais pourquoi ce refus ? Raison morale tout d'abord. C'est au nom de son devoir que la princesse s'oppose à ce passage à l'acte. Mon devoir me défend de penser jamais à personne, et moins à vous qu'à qui que ce soit au monde, pour des raisons qui vous sont inconnues, dit-elle à Nemours. Madame de Clèves l'accuse, en fait, et il le sait, de la mort de Monsieur de Clèves, à qui le rapport d'un gentilhomme envoyé pour les espionner avait fait croire que la relation entre sa femme et son amant était consommée. Fondé sur des hypothèses, ce raisonnement n'en conduit pas moins Madame de Clèves à affirmer sa volonté d'abandonner Nemours. La morale du monde n'est pas la sienne. « Je sais bien que ce n'est pas la même chose à l'égard du monde, » écrit Madame de Lafayette. « Mais au mien, il n'y a aucune différence, puisque je sais que c'est par vous qu'il est mort, et que c'est à cause de moi. » Auteur, morale de l'héroïne, elle s'est parfaitement appropriée les valeurs d'une morale aristocratique diffusée par sa mère, Madame de Chartres, et comme celle-ci l'avait espéré juste avant sa mort, elle ne craint pas de prendre des parties trop rudes et trop difficiles pour s'y conformer. » Mais cette morale n'est-elle pas au fond un prétexte ? C'est ce que veut croire le duc de Nemours. Quand le rempart tombe, c'est une autre Madame de Clèves qui se découvre alors à nous dans une seconde partie du texte. Acceptant un instant de se contredire et d'alléger le poids de sa conscience, avant de revenir plus loin sur ses propos, elle déclare à Nemours « Je sais que vous êtes libre, que je le suis, et que les choses sont d'une sorte que le public n'aurait peut-être pas sujet de vous blâmer, ni moi non plus. » Quand nous nous engagerions ensemble pour jamais. Son devoir, avoue-t-elle, ne subsiste que dans son imagination. Quand tous les faux-semblants ont disparu, que reste-t-il des raisons de la princesse pour dire alors adieu à Nemours ? Peut-être cet adieu est-il le signe d'une lucidité absolue et unique sur la passion amoureuse. Elle est tout, sauf éternelle. Nemours, lui-même, comme elle le rappelle dans notre extrait, a déjà eu plusieurs passions et en aura sans doute encore. Dès lors, et c'est une des leçons de l'amour interdit du roman courtois, l'obstacle renforce la passion, mais l'impossible assouvissement des désirs la conduit dans un même mouvement au renoncement. L'on considère souvent qu'affleure dans ce pessimisme l'influence janséniste du temps de l'auteur de notre roman. Ainsi, la princesse de Clèves pourrait-elle dire, avec Pascal, qu'en amour, comme en tout, on aime mieux la chasse que la prise, ou encore, avec La Rochefoucauld, grand ami de Madame de Lafayette, que pour avoir ce que nous avons souhaité, nous ne laissons pas de souhaiter encore. Nous nous accoutumons à tout ce qui est à nous, la joie n'est plus vive, on n'en cherche ailleurs que dans ce qu'on a tant désiré. Paradoxalement, pour Madame de Clèves, fuir l'amour, s'y refuser, c'est tenter de le conserver. Mais c'est aussi garder la maîtrise de soi. Nous pourrions entendre dans cet extrait un écho à la Phèdre de Racine, écrite un an seulement avant la parution de notre roman. « C'est Vénus tout entière à sa proie attachée », disait Phèdre en parlant de sa passion insensée pour son beau-fils Hippolyte. Très loin de cette folie, Madame de Clèves déclare « Les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler ». Tout au long de cet extrait, le lecteur assiste bien à un combat contre la passion dont Madame de Clèves paraît déjà presque victorieuse. C'est avec des yeux pleins de douceur que la princesse regarde l'homme qu'elle aime, tandis que Monsieur de Nemours s'abandonne à tous les divers mouvements dont il est agité, emporté, écrit l'auteur, par une passion dont il n'est plus le maître. Devant les efforts démonstratifs de Nemours, le cœur de Madame de Clèves, nous dit la narratrice, n'était pas insensible. Cette contenance, cette maîtrise préfigure le repos auquel la princesse aspire, donnant à la fin de ce roman une portée presque mystique, affranchie de la passion humaine, affranchie du monde. La princesse semble imposer sa liberté dans son dernier adieu. Ainsi, vous l'aurez compris, si Madame de Clèves fuit la passion, c'est pour échapper au malheur. Si Monsieur de Nemours veut convaincre la princesse d'être à lui, c'est pour accéder au bonheur. Cette scène, qui devait enfin réunir les amants, les sépare à tout jamais. Madame de Lafayette a le mérite de ne pas épuiser, dans ce livre qui a été considéré comme le premier roman d'analyse, les explications de cette impossible entente et de laisser au lecteur le soin d'y trouver ce qu'il cherche. C'était La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Un grand merci à Carole Amselem, professeure au lycée Le Corbusier d'Aubervilliers, pour son analyse très riche et délicate de ce texte de Madame de Lafayette. Tout de suite, un stylo, un papier, c'est l'heure de la grande dictée de Rachid Santaki. C'est un extrait de Moonlight Serenade de Glenn Miller, un classique du jazz repris dans la bande originale de la très très bonne série Netflix, Ratched, basée sur le roman Vol au-dessus d'un nid de coucou. Avec Sarah Paulsen en infirmière, Elle est Mildred Ratched, Cynthia Nixon et Sharon Stone.
France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki.
Dès le matin, le boulanger.
Oh là là, ça va pas, Irature. Avec la tête que tu fais, tu vas tout louper, mon maître. À quoi ça sert de savoir lire et écrire si je peux pas t'aider? Si j'ai la parole, c'est pas pour rien tout de même. Qu'est-ce que je peux faire? Mon pauvre maître, c'est pas le bon Dieu qui va te tirer de là, quoique... Parurata Adonai.
Sacrilège.
Bah quoi?
Il ne faut pas dire ce mot, c'est le nom de Dieu. On ne le dit que pour faire des miracles.
Je l'ai pas dit, je l'ai pensé.
Ce mot est un mot magique qu'on le dit juste pour les prières.
Je m'en fiche si c'est interdit, je le dis quand même. Adonai. Si ça sert à appeler Dieu, c'est le moment. Adonai, mon maître qui t'aime et qui aime tant les livres est en train de louper sa dictée. Adonai, 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 miaou, 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 miaou.
Miaou. En fait, le cinéma est un art de la dictée. Bonjour Rachid Santaki.
Bonjour Olivia.
Vous avez reconnu quel film?
Je n'ai pas reconnu le film.
Peut-être juste la voix de François Morel quand même, en chat. Et notre invité Bruno Doucet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez reconnu un film que vous avez vu au cinéma?
Le chat du rabbin.
Ouais, exactement, de Johann Sfar, dessinateur et réalisateur. Mmh. Extrait donc du chat du rabbin. Il est 17h30 passé sur France Culture, c'est l'heure de la dictée. Comme tous les samedis, désormais à 17h30, donc sur France Culture, on va se prêter à cet exercice, où on s'y prête déjà depuis la rentrée, Rachid, pas seulement réservé à un petit club d'adeptes de l'orthographe, hein, au contraire, on essaie d'ouvrir et d'amener dans le club ceux qui jusqu'ici était fâché avec cet exercice pour les inviter à renouer avec une dictée sans contrainte ni regret. Le plaisir, c'est ce que vous dites souvent à Rachid Santaki.
Exactement, le plaisir de s'amuser, d'écrire et de se confronter à ce vieil exercice peut-être.
Ah oui, un vieil exercice.
C'est l'exercice qui est vieux, c'est pas nous, de toute façon, autour de cette table. À la dictée donc aujourd'hui, Bruno Doucet, bonjour.
Bonjour.
Poète et éditeur, patron des éditions éponymes, cofondé avec Muriel Zach, une maison qui fête ses 10 ans cette année. Ouais. Et son catalogue de 180 titres, c'est phénoménal. Une maison qui se consacre à la poésie. Et ça marche, on va y revenir. Mais aujourd'hui, pas de poésie pour cette dictée. Parce que vous me disiez d'ailleurs, Rachid Santaki, que c'est difficile. L'énoncé, l'écriture, les deux, mon général?
Exactement. Je me suis déjà prêté à l'exercice donc de faire pencher les participantes et participants à des extraits de poésie. Alors, le Cancre de Jacques Prévert, ça allait. Le texte est assez court. Mais j'ai essayé une lecture d'un texte d'Aimé Césaire. Et là, c'est la catastrophe.
C'est
difficile. Voilà.
Sur quoi?
Alors, du coup, c'était un passage...
Pourquoi la catastrophe?
Difficile parce que les répétitions, le texte en lui-même était vraiment très oral et du coup, pour ceux qui jouaient le jeu de la dictée, le mot qui revenait un peu comme un ressort, du coup je perdais mes participantes et mes participants.
Mais il existe pourtant des petits poèmes en prose.
Oh, il en existe. Mais c'est bien hein, aujourd'hui de... Voilà, d'être plutôt sur la prose.
Ouais, totalement, qui aurait pu pourtant nous simplifier la vie. Alors, aujourd'hui, vous avez choisi pour nous, Rachid Santaki,
un extrait de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Et j'ai été sélectionné un passage avec plein de poissons.
Aïe, aïe, aïe.
Voilà. Qui ont des noms.
Qui ont des noms, ouais. Des noms intéressants, qui font... mal à la tête.
Ouais. Et mal au stylo, surtout pour ceux qui vont prendre note de cette dictée, c'est-à-dire vous, auditeurs de France Culture, accompagnés donc de Bruno Doucet aujourd'hui. Comment ça va se passer? On rappelle les règles?
Les règles, donc les modalités sont les suivantes. Je vais effectuer une première lecture du texte pour vous permettre de familiariser avec le texte, la dictée. Ensuite, deuxième lecture, vous concentrerez et pencherez sur votre copie. Donc, ce sera donc le temps d'écriture. Et ensuite, une troisième lecture, Olivia soulignera les difficultés. On bondira sur les noms de ces fameux poissons et peut-être les autres pièges.
Avec vous, Rachid Santaki. Voilà pour les règles, Maître Santaki. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts, tous derrière le poste?
Oui.
Est-ce que vous êtes prêts?
Moi, j'ai les mains qui transpirent. Je
c'est
me
normal.
Dis que peut-être je vais patauger.
Vous étiez bon à l'école ou pas?
Ouais.
Ça allait?
Ouais, je suis devenu prof de français quand même.
Mmh. Ah oui, oui, vous avez infligé ça
oui.
À d'autres.
Mais je ne le suis plus, donc maintenant, ouais. Mon orthographe s'est un peu délité.
Ouais. Bon, reprenez un stylo, on quitte les écrans, les claviers d'ordinateur, voilà. les claviers de téléphone portable, et on se saisit de son stylo. Et on écoute cette première lecture de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne par Rachid Santaki.
Je remarquais, entre autres, des germons, espèces de scombres grands comme des thons, aux flancs bleuâtres et rayés de bandes transversales qui disparaissaient avec la vie de l'animal. Ces poissons nous accompagnaient par troupes et fournirent à notre table une chair excessivement délicate. Fin de la dictée pour les écoliers. On prit aussi un grand nombre de spars vert tors, longs d'un demi décimètre, ayant le goût de la dorade, et des pyrapèdes volants, véritables hirondelles sous-marines, qui, par les nuits obscures, raient alternativement les airs et les eaux de leur lueur phosphorescente. Parmi les mollusques et les zoophytes, je trouvais dans les mailles du chalut diverses espèces d'alcyonnaires, des oursins, des marteaux, des éperons, des cadrans, des cérites, des hyales. Point final.
Bien, je dis bonne chance.
Moi, je suis dans la catégorie écolier ou...
Vous pouvez.
Mais pas du tout. Pourquoi vous l'autorisez? Vous n'allez plus avoir personne. Non, 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 non. Les plus de 18 ans doivent aller jusqu'au bout. Hein. C'est ça l'idée quand même. Voilà. Ouais, okay. Et écolier, donc, au sens large, jusqu'au moins de 18. On attaque ce texte, et donc avec une majuscule pour le premier mot.
Exactement.
Ça commence là.
Je remarquais, j'insiste bien sur le « je remarquais », virgule, entre autres, virgule, des germons, virgule, espèces de scombres, grands comme des thons, virgule. Grands comme des thons, virgule. Au flanc bleuâtre, virgule. Au flanc bleuâtre, virgule. Je répète, espèce de scombres grands comme des thons, virgule. Au flanc bleuâtre, virgule, et rayé de bandes transversales, et rayé de bandes transversales qui disparaissent, merci Olivia, qui disparaissent.
Je l'ai appris par cœur.
Avec la vie de l'animal, point. Qui disparaissent avec la vie de l'animal, point. Ces poissons nous accompagnaient. Ces poissons nous accompagnaient par troupes. Je répète, ces poissons nous accompagnaient par troupes et fournir à notre table et fournir à notre table une chair excessivement délicate, point. Je répète cette dernière phrase. Ces poissons nous accompagnaient par troupes et fournir à notre table une chair excessivement délicate, point. Fin de la dictée pour les écoliers. On prit aussi un grand nombre, on prit aussi un grand nombre de spars vert tors, de spars vert tors, virgule. On prit aussi un grand nombre de spars vert tors, virgule, long d'un demi décimètre, virgule, ayant le goût de la dorade, virgule. Ayant le goût de la dorade, virgule. Donc je vais répéter ce passage. Long d'un demi décimètre, virgule. Ayant le goût de la dorade, virgule. Et des pyrapèdes volants, virgule. Et des pyrapèdes volants, virgule. Et des pyrapèdes volants, virgule. Véritable hirondelle. Sous-marine, virgule. Véritable hirondelle sous-marine, virgule. Qui, virgule, par les nuits obscures, virgule. Qui, virgule, par les nuits obscures, virgule. Ré alternativement les airs et les eaux de leur lueur phosphorescente. Et les eaux de leur lueur phosphorescente. Parmi les mollusques et les zoophytes, virgule. Parmi les mollusques et les zoophytes, virgule.
Besoin d'étendre le poignet, une seconde. Retour. On est presque au bout, mais...
Dernière ligne droite. Parmi les mollusques et les zoophytes, virgule. Je trouvais... C'est difficile, hein. Alors, parmi les mollusques régional. Et les zoophytes, virgule. Je trouvais... J'essaie de le...
Il avait grondé la dernière fois parce que Rachid avait trop ouvert le... Ouais. Mais je ne dirais pas à quelle occasion. Le « est » ou le «
voilà. Le « est ». Je trouvais... J'y arrive pas. Je trouvais dans les mailles du chalut...
Et plus, ce sera plus simple, vraiment.
T-R-O. Je trouvais...
Alors, parmi les mollusques et les zoophytes...
Parmi les mollusques et les zoophytes, virgule, je trouvais... Dans les mailles du chalut, diverses espèces d'alcyonnaires, virgule. Des oursins, des marteaux, des éperons, des éperons, des cadrans, virgule. Des cérites, virgule. Des hyales, point final. Je répète. Des cadrans, virgule. Des cérites, virgule, des hyales, point final. Ça a été cette activité.
Niveau de difficulté.
C'est difficile, hein.
Oui.
Je trouve difficile, hein. Tous ces noms d'espèces de poissons, hein, me sont assez peu familières.
En plus.
On commence par le début, Rachid, prêt. Et vous nous dites. Alors, je remarquais.
Moi, je viens d'une région où on ouvre les O et les E en fin de mot. Donc, on fait
c'est
du
quoi,
vélo. Le Jura. Donc, depuis que j'ai quitté le Jura, c'est-à-dire il y a quand même maintenant pas mal d'années, même pas mal de décennies, eh bien, j'essaie de me corriger. Alors, sur remarquer.
Alors là, c'est un passé simple.
Oui, c'est ça. Donc, pour moi, le passé simple, je le marque avec le « et », je ferme.
Oui.
Voilà.
D'ailleurs, c'est assez juste.
Et l'imparfait, vous l'ouvrez.
Et je l'ouvre.
Ouais. Alors, je remarquais, aïe. Entre autres, avec un « s hein. ». Des germons.
C'est
Rachid.
Un ton blanc.
Mm-hmm. Tu vous l'écrivais comment ?
G-E-R-M-O-N-S.
Très ouais. Bien.
Espèce de scombre, grand comme des thons. Ben voilà, c'est précisé. Espèce, avec S ou sans S ?
Alors, il n'y a pas plusieurs espèces de germons. Il y a une espèce que constitue la classe des germons, non ? J'ai vu ça comme ça. Mais ensuite, j'ai mis tout le reste au pluriel.
Est-ce qu'on peut appeler Jules Verne ou pas pour avoir l'explication ?
Ça va être difficile. C'est vrai qu'effectivement, en fonction de l'auteur, on peut avoir des écritures.
Moi, je l'ai eu souvent ces derniers temps au téléphone. Ah. Et lui me disait, enfin, franchement, liberté, hein, liberté totale par rapport
à l'écriture,
au dictat de mon écriture.
Bon, ben, alors là, il lui avait mis un espèce de scombre. S-C-O-M-B-R-E-S, donc un M avant le B, comme avant le P.
Ouais,
grand, avec un S, comme des thons, T-H-O-N-S. Au flanc bleuâtre, alors flanc, Bruno Doucet.
J'ai pensé qu'ils en avaient deux quand même. Hein. Même si, les voyant passer, on peut ne voir qu'un seul flanc, mais voilà.
Bon,
j'ai imaginé
plus,
ce qui se passait de l'autre côté du poisson que je voyais passer. Ouais. Donc j'ai mis au flanc bleuâtre. Au pluriel.
Et flan, vous l'écrivez pas comme le flan qu'on mange.
F-L-A-N-C-S.
Très bien. Bleuâtre, avec un chapeau sur le A. Mmh. Et virgule, et rayé de bandes transversales. Donc rayé au pluriel aussi, avec un S de bandes transversales au pluriel toujours.
Oui.
Qui disparaissent avec la vie de l'animal. Disparaissent, deux S-E-N-T.
Oui.
Ces poissons nous accompagnait par troupe. Alors, c'est possessif ou...
Non, démonstratif.
Démonstratif, donc CES. Nous accompagnait par troupe et fournir à notre table une chair. Alors, chair, ça peut poser question dans l'écriture, dans l'orthographe. On peut peut-être, comment vous l'avez écrit ?
C-H-A-I-R.
C-H-A-I-R, ne pas confondre avec la chair de l'orateur, C-H-A-I-R-E. Excessivement délicate. Alors là...
Non, ça va, jusque-là, ça va.
Arrive le point culminant de cette dictée. Les sparvertors ont pris aussi un grand nombre de sparvertors. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, sparvertors, c'est donc le terme. Spar désigne plusieurs espèces de poissons de bonne qualité gustative de la famille des sparidés.
Donc, c'est en deux mots. Et vous l'avez écrit comment ?
Oui, ben, je suis encore en train de l'écrire.
Ça, vous n'avez pas le droit.
Donc, j'en ai fait.
La dictée est terminée, voilà. Le stylo est suspendu.
Alors, mais je suis en train de l'écrire dans ma tête, hein, de le corriger. Donc, spar, je l'ai écrit S-P-A-R, mais c'est ridicule. Trait d'union, vertor, V-E-R-T-O-R. Mais je pense qu'il y a au moins deux fautes. Et aujourd'hui, maintenant, je corrigerai en écrivant spar, S-P-A-R-E-S.
Parfait.
Trait d'union, V-E-R-T-O-R, pas de S à la fin.
Alors du coup...
C'est pas mal, hein.
C'est bien. Donc pas de trait d'union, mais spar, donc vous l'avez bien éplé.
Ouais.
Et vertor, en fait, il manque le S.
Il manque le S.
Voilà, V-E-R-T-O-R-S.
Bon.
Sans trait d'union, véritable hirondelle.
Attendez, long d'un demi-centimètre, hein.
Ah on était où ? Oui, j'ai oublié, pardon, les longs d'un demi-centimètre. Oui, alors.
Décimètre, j'ai failli faire
décimètre. Décimètre, oui, oui, oui.
Voilà, dis donc. Donc je rappelle que l'intégralité, quand même, du texte de la dictée est en ligne sur FranceCulture.fr, à la page de En français dans le texte ou de la grande dictée de Rachid Santaki, si vous voulez vraiment avoir la correction immédiate. J'ai l'impression que la correction est plus laborieuse que la dictée encore. Pardon. Demi-décimètre.
Ouais.
Trait d'union ou pas trait
d'union ?
Pourquoi ? Exactement. Quelle est la règle ?
Trait d'union devant un nom commun. pour en faire un nom composé et absence de trait d'union devant un adjectif. Par exemple, je suis à demi sûr de moi. Là, je ne mets pas du tout de trait d'union.
Et un S à long, long d'un demi décimètre, ayant le goût de la dorade et des pyrapèdes volants. Pyrapèdes, Bruno Doucet.
Ben, je l'ai écrit P-I-R-A-P-E accent grave D-E-S.
Parfait.
C'est ça.
Non, Y. P-Y, vous avez dit P-Y.
Ah pardon, j'ai pas entendu. J'ai entendu.
D'accord,
P-Y, oui. Pyrapèdes, j'ai pas fait attention au Y.
Véritables hirondelles ou véritables hirondelles. Alors, Rachid n'a pas fait la liaison.
Oui,
du coup,
alors, moi je l'ai mis au pluriel.
Vous lui avez pas fait confiance.
Oui, c'est ce qu'il fallait faire.
Ouais. C'est parfait.
Ouais, très bien.
Sous-marine.
Mais c'est visuel, pardonnez-moi. C'était une histoire de devoir passer tout ce banc de poissons.
Exactement.
Donc j'ai imaginé qu'un écrivain ne pouvait pas l'écrire au singulier.
Exactement, mais ce que vous avez précisé tout à l'heure... Comme pour les flancs, effectivement, c'est l'image, en fait, pouvoir, lors de la première lecture, c'est vraiment visualiser le texte
c'est
pour
ça.
Ensuite le réécrire et éviter les erreurs.
Alors, qui, par les nuits obscures, au pluriel, ré alternativement, R-A-I-E-N-T, plus loin, alternativement, les airs et les eaux, E-A-U-X, de leur lueur phosphorescente. Parmi les mollusques et les zoophytes, alors parmi, sans S.
Sans S.
Les mollusques et les zoophytes, mollusques deux L.
Ouais.
Zoophytes comme un zoo.
Ben oui.
Hein, Z-O-O-P-H.
P-H-I.
Y.
Ah, Y.
Ouais, encore
ma troisième fois.
Oui, mais c'est le I et le Y. J'ai l'impression qu'on a identifié.
Le point faible, le talent d'Achille,
vous
le
savez.
Attention, je crois qu'il y a encore, oui, il y a encore deux Y qui arrivent dans la suite de la dictée. Je trouvais à I, toujours dans les mailles du chalut, comme chalutier, chaluté, diverses espèces. Alors c'est là que ça se complique.
Ben oui.
À vous jouer, Rachid.
Du coup, les alcionnaires.
J'ai écrit avec un I aussi, donc.
Ah d'accord.
Ah ouais, mais
du coup, c'est pas un Y. Mais vraiment, c'est le. D'accord.
Des oursins, des marteaux, ça va.
Oui.
Pas de H à oursin. Des éperons.
Ah. Oui, alors on a entendu des éperons. Hein.
Oui, effectivement, j'ai avalé effectivement, Bruno.
Mais moi, je l'ai remis des éperons.
C'est vrai.
Voilà. Alors, E-P-E-R-O-N-S, des cadrans, des sérites. Qu'est-ce que c'est, Rachid Santaki?
Alors, nom masculin, donc un mollusque gastéropode à coquille en hélice très allongée. À côte.
Voilà, faites un dessin pour voir, parce que j'aimerais vous rajouter toujours de la difficulté quand vous définissez un
petit mollusque.
Voilà, donc c'est des petits mollusques gastéropodes à coquille en hélice très allongée à côte. Des cadrans, des sérites et des.
Yal.
Bah, des yal avec un Y.
Ah, très bien.
Voilà. Mais je ne l'ai pas mis.
Ah
j'ai encore mis un Y.
Mais là, ça devient psychanalytique, je sais pourquoi. C'est parce que je voulais que le seul Y de la feuille soit celui de mon nom.
D'accord.
Ah, voilà. Très bien. D'accord. Oui, c'est vrai. Logique. D'accord.
Et avec un H. H-Y-A-2-L-E-S. Là, c'est le cumul des difficultés pour dernier mot de cette dictée. Grand bravo. Merci à tous de vous être prêtés au jeu. Il reste quelques règles qu'il faudra qu'on éclaircisse. On fera ça tout bien d'ici la prochaine fois. Bruno Doucet, la poésie, pas de dictée, avec une petite frustration. Rachid Santaki ne nous en avait pas réservé une comme telle. À l'école, donc, vous disiez, quand vous étiez écolier, c'était
alors,
pas...
Alors, quand j'étais écolier, moi, j'étais fort en français, mais j'étais fort en rédaction, et l'orthographe n'était pas mon fort, donc...
Mais
j'ai dû quand même me mettre au diapason, pour... voilà.
Alors, le goût des mots, le goût des textes,
le goût de la langue,
il vient d'où il vient...
Alors, le goût
il
des
est
mots,
quand même né sur les bancs de l'école, avec
oui,
un
non, pas
professeur.
Sur les bancs d'école, il est né dans la vie, voilà. Et en fait, c'est le poème qui est arrivé dans ma vie très tôt. Vers l'âge de 9 ou 10 ans, mais il n'est pas venu de manière scolaire. Il est venu comme un besoin d'expression personnelle, dans une période un petit peu difficile. Et il est venu un petit peu comme vous imaginez, un ciel plein de nuages noirs, et puis un petit fil d'argent comme ça qui traverse, comme un rayon de lumière. C'était mon premier poème, j'avais 9 ans, 9 ans et demi. Et j'ai attrapé le fil, et puis après je suis monté dessus.
C'est beau, très
et je suis resté dessus, hein. Je suis pas descendu. Voilà.
Sortir la poésie de l'école, porter la voix des poètes partout sur les scènes littéraires, dans les rues, dans les prisons, c'est aujourd'hui ce que vous cherchez à faire avec
c'est ce que nous faisons.
Votre maison d'édition.
Oui, ma maison d'édition.
Ouais. Voilà. Et ces textes que vous publiez rendent la poésie virale, parce qu'elle est vitale.
Elle est virale, ouais.
Elle est vitale, en tout cas.
Elle est virale, vitale. Elle est viable aussi, même économiquement. Donc ça, c'est quand même formidable de pouvoir faire la démonstration dans un pays comme le nôtre, dans cette espèce de crise qui ne cesse, qui s'éternise, de faire la démonstration qu'une maison d'édition qui travaille de façon professionnelle peut s'installer dans le paysage en ne publiant que des poètes contemporains. Ce qui est plus difficile que de publier des poètes disparus.
Et en 10 ans, il y a plus ou moins de poètes qu'à vos débuts ?
Ah, il y en a, pour moi, il y en a beaucoup.
Il y a encore des vocations qui continuent.
Ah oui, bien sûr. Je pense qu'il y en a plus parce que le vent de la poésie tourne en France. Vous savez, dans les années, par exemple, 90-2000, il y a eu un renouveau de l'oralité, des contes et des conteurs. On a vu fleurir des écoles du conte et du conteur. Dans les années 2000, on pourrait dire, c'est les années philo. Et il me semble que depuis pas mal de temps, nous sommes dans les années poésie. Et ça s'explique assez bien, parce que la poésie est nécessaire en temps de crise. Dans les crises individuelles, mais aussi dans les crises sociétales.
Et elle n'est plus le domaine réservé des poètes, peut-être, non ?
Alors, heureusement. Heureusement, il faut qu'elle devienne une sorte de domaine public, ouvert et offert à tous, au plus grand nombre.
Au lecteur de vibrer. Merci beaucoup à vous, Bruno Doucet, d'avoir été avec nous pour cette dictée. Merci Rachid Santaki.
Merci,
à quelques minutes de la fin, il est temps pour nous de retrouver Étienne Klein pour son anagramme du jour. Et l'anagramme de la semaine, Étienne Klein, bonjour.
Bonjour Olivia.
Vous avez choisi l'aspiration verticale.
Oui, je vais vous parler de la passion des alpinistes, car aux yeux des alpinistes, tout sommet est vu comme un phénomène pur. Aussitôt aperçu, il devient l'objet d'un désir obscur. Il aimante le regard des grimpeurs, qui distingue un prétexte au tutoiement du vide radical.
Plus généralement.
Mais plus généralement, pour qui a ressenti cet appel qui est à la fois magnétique et antigravitationnel, il faut le faire. Il devient psychiquement impératif d'aller physiquement y voir. L'être entier ressent alors l'aspiration par le mouvement vertical des cimes dont parlait Gaston Bachelard dans L'air et les songes.
Du coup,
pour les alpinistes, un été sans montagne, c'est-à-dire sans mouvement vertical, relève de l'inenvisageable.
Voilà pourquoi,
pendant tout le reste de l'année, ils ruminent en leur fort intérieur ce plaisir total à venir, qui n'est autre que l'anagramme joliment trouvé par Olivier Garcia, de l'aspiration verticale.
Ce plaisir total à venir pour l'aspiration verticale. Merci beaucoup Étienne Klein. Et je connais justement un alpiniste, un montagnard qui vient de publier un livre intitulé « Psychisme ascensionnel ». C'était le 7 octobre et c'est vous Étienne Klein.
Ça doit être intéressant.
Ça doit être... On va voir si vous allez vous faire vous aussi aspirer par la verticalité des cimes. Merci beaucoup. C'était En français dans le texte. Toutes les infos sont à retrouver sur franceculture.fr. Vous pouvez également nous y réécouter, podcaster l'émission, ici ou sur la toute nouvelle appli Radio France. Émission préparée par Catherine Denet et Sandrine Chaperon. À la réalisation, Mydia Portis-Guérin, avec à la technique, Anthony Thomasson.